Mais d'abord, on s'en va rejoindre notre journaliste à Québec, Jonathan Bernard, journaliste Cogeco. Bonjour, Jonathan.
Salut, Bernard.
Parce que toi, tu as pris connaissance du rapport donc sur l'assassinat de Marilyn Lévesque. Résume-nous ça, s'il te plaît.
Oui, voilà, rapport de 124 pages qui a été rédigé par deux coprésidents de ce comité d'enquête nationale conjointe qui a été mis en place pour justement faire la lumière sur cette tragique histoire qui s'est produite du côté de Québec. Il y a de ça un an, je vous le rappelle, parce que c'était le 22 janvier 2020 dans un hôtel du secteur de Sainte-Foy à Québec où Eustachio Galès a enlevé la vie à Marilyn Lévesque, âgée de 22 ans alors. Donc, à la lumière de ça, ce que l'on en comprend, c'est qu'il y avait des lacunes graves dans la surveillance, mais aussi dans la gestion de cas. Au niveau de la gestion de cas, d'abord, vous mentionnez que le comité conclut que la fréquentation d'un salon de massage pour fins sexuelles à plus d'une occasion, dont trois occasions autorisées par l'équipe de gestion de cas, était un facteur de risque contributif de l'incident, étant donné les antécédents de violence conjugale du délinquant. Je vous rappelle qu'il avait tué auparavant, quelques années auparavant, son ex-conjointe. Donc, ça vous donne un peu une idée. Maintenant,
l'équipe de gestion de cas, en passant, Jonathan, là, c'est un mot technique, ouais, une expression technique. C'est les personnes du service correctionnel qui devaient surveiller Galès.
Et les gens de la maison de transition également. Parce que ça, j'y viendrai. Il y a aussi des lacunes au niveau de qui s'occupait vraiment de la surveillance de Eustachio Galès. C'était pas tellement clair à un point tel que dans le rapport, on dit qu'il y avait beaucoup de confusion quant au rôle et aux responsabilités des intervenants responsables au dossier.
D'accord.
Donc, vous voyez, au niveau de la surveillance maintenant, ce que l'on dit, c'est qu'on avait sous-estimé la probabilité que le délinquant crée des liens affectifs avec une employée de salon de massage. Mm-hmm. On dit également qu'il y avait de nombreux signes précurseurs démontrant une désorganisation dans la vie du délinquant qui était directement liée à son cycle de délinquance. Et on dit qu'il y avait aussi des lacunes majeures sur le plan de la corroboration des renseignements avec des tiers, donc avec son employeur, avec son psychologue et d'autres intervenants qui sont davantage externes ou même de la famille. Mm-hmm. Maintenant, je vous inviterai à écouter Anne Kelly, elle est commissaire pour Service correctionnel Canada, donc elle reconnaît qu'il y a eu effectivement des lacunes dans cette histoire.
Je vais être claire, le Service correctionnel du Canada n'approuve aucunement que les délinquants aient recours à des services sexuels. La stratégie de gestion cas était complètement inappropriée. Aussi, au niveau de la surveillance à collectivité, c'est clair que la stratégie était complètement inappropriée.
Bon, est-ce que la maison de transition est à blâmer là-dedans, selon le rapport d'enquête?
Également. Donc, il y a Service correctionnel Canada et la maison de transition Pinchot, ici à Québec, qui sont à blâmer. Sachez que du côté de la commission des libérations conditionnelles, on a été blanchi dans ce rapport. Donc, il n'y a aucune recommandation pour eux parmi les 5 recommandations qui ont été formulées. Ce qui va arriver, c'est que dorénavant, tous les centres résidentiels communautaires, il y a ça, et c'est une particularité qui est propre au Québec, ce sont des maisons de transition qui sont un peu différentes des autres, eh bien, elles vont toutes se voir retirer leur mandat de surveillance. Ce sera repris par Service correctionnel Canada. Ça peut sembler un peu compliqué, mais en gros, ce que ça dit, c'est que tous les délinquants qui vont sortir de prison seront dorénavant sous la responsabilité de Service correctionnel Canada. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont imputables de tout ça? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des sanctions qui seront prises? La question a été abordée ce matin et voici ce qu'Anne Kelly, commissaire de Service correctionnel Canada, avait à dire.
Maintenant que les travaux du comité d'enquête et de l'enquête criminelle sont terminés, le service a lancé des enquêtes disciplinaires visant les employés ayant participé directement à la surveillance et à la supervision de ce cas. Ça va nous permettre de déterminer si d'autres mesures imputables sont requises. Et à ce moment-ci, ce serait inapproprié pour moi de commenter davantage.
Donc, on comprend, Jonathan, qu'il y a personne qui a été sanctionné. Attendaient les résultats de l'enquête. Là, ils lancent une enquête disciplinaire et on verra bien s'il y aura des gens qui devront payer, dans le fond, pour leur... c'est quoi? De l'insouciance, de la négligence, en tout cas... Visiblement, il y avait un problème au niveau de la surveillance, là, puis là, il faudra voir, est-ce que c'est les surveillants de service correctionnel ou encore les surveillants de la maison de transition ou les deux qui vont être blâmés, qui vont éventuellement être sanctionnés, à voir.
Mais sachez qu'il y a actuellement 7 enquêtes disciplinaires visant autant d'employés de Service correctionnel Canada.
OK, merci beaucoup. Jonathan Bernard, journaliste Cogeco à Québec. Dave Blackburn est professeur agrégé à l'Université du Québec en Outaouais. Il a été commissaire à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Dave Blackburn, bonjour.
Bonjour, M. Drainville.
Bon, réaction à ce rapport d'abord.
Bon, ben premièrement, je suis toujours, moi, personnellement aussi touché qu'il y a un an de cette situation-là. Et puis, ce rapport-là, en toute honnêteté, me laisse sur mon appétit. Je ne suis pas vraiment surpris des conclusions et des recommandations. Ça fait un an déjà qu'on dit que la stratégie de gestion de cas, tout particulièrement permettant à Galaise d'aller voir des travailleuses du sexe, ça ne faisait aucun sens. Je l'avais dit l'année passée que ça m'avait jeté carrément en bas de ma chaise. Mmh. Et puis... vous savez, le fait de blâmer le CRC et l'agence de libération conditionnelle ou l'équipe de gestion
le CRC, ça, c'est la maison Pinchot, là. La maison de transition.
Faut pas perdre de vue que, évidemment, la surveillance d'un délinquant en communauté, c'est une co-responsabilité. Dans ce cas-là, c'est avec la maison de transition et services correctionnels. Donc, c'est sûr qu'il y avait des lacunes là.
Pourquoi ça vous laisse sur votre appétit, Dave Blackburn?
Ben, je m'attendais que ça allait être quelque chose comme ça, M. Drainville.
Vous trouvez qu'il noie le poisson?
Pouvez-vous me dire c'est qui le président puis le coprésident qui a signé ce rapport-là?
Non. Je les connais pas.
Pas capable de dire c'est qui a signé ça. On sait pas c'est qui les membres qui ont participé justement à ce comité d'enquête-là. Le rapport, je vais sûrement en avoir. Je n'ai pas été en mesure d'en avoir une copie actuellement, mais j'ai des doutes. C'est qui l'a signé, là, un des deux criminologues. On ne sait pas c'est qui. Après ça, le service correctionnel, évidemment, il y a une part importante de responsabilité là-dedans, puis ça, c'est pointé. Il y a certains éléments. Mmh. La Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Est complètement blanchie.
Complètement blanchie. La formation. Bon, ça, il mentionne que c'est correct. Nous, je vous le rappelle, là, en novembre 2017, on est huit commissaires du Québec, dont l'actuel vice-président de la région du Québec. On envoie une lettre à M. Justin Trudeau, à M. Michael Wernick, pour mentionner que la commission a besoin de membres expérimentés en nombre suffisant. Puis ce qu'on met dans notre lettre, je l'ai sous les yeux, là, afin de transmettre la mémoire corporative, d'encadrer les nouveaux commissaires qui nécessitent de 18 à 24 mois de formation. Oui, c'est beau une formation d'une salle de classe. Je sais, je suis professeur d'université, j'y forme les étudiants. Mais il y a aussi une formation de terrain. On n'en parle pas de ça. Ça semble ne pas avoir été considéré plus qu'il faut.
Mais Dave Blackburn, quelles sont les questions auxquelles le rapport n'apporte pas de réponse? Dans votre esprit, là, c'est quoi?
Ben moi, il y a plusieurs éléments. L'élément, justement, là, blâmer au premier niveau le CRC puis l'agence, c'est une chose, qu'il y ait une enquête disciplinaire là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont être blâmées là-dedans? Est-ce que le ministre va être blâmé? C'est sa responsabilité au bout du compte, là.
Vous trouvez que le service correctionnel s'en sort trop bien, c'est ça?
Service correctionnel, je pense que les recommandations qui sont là, c'est des recommandations qui sont directement en lien avec cette tragédie-là. Donc ça, de ce côté-là, je pense que le service correctionnel a la matière pour faire son bout de chemin en lien avec le cas. Donc les 5 recommandations qui les touchent directement, qui touchent aussi directement leur partenaire principal en surveillance en collectivité, qui est la maison de transition. Donc ça, je pense que le service correctionnel...
Mais qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport quand ils disent, là, dorénavant, ça va être service correctionnel qui va devoir, qui va assumer la supervision des délinquants, là, des détenus qui sont en liberté là, dans des maisons de transition. Ça ne sera plus la maison de transition. Qu'est-ce que ça va changer, ça?
Ben moi, ce que je comprends, c'est que ça va devenir comme des CCC, là, ce qu'on appelle des centres... c'est des maisons de transition aussi, mais gérées par le service correctionnel du Canada. Donc, avec des employés du service correctionnel du Canada.
C'est comme ça à l'extérieur du Québec. C'est ce que j'ai compris, hein? C'est ça?
C'est ça.
Il y a juste au Québec où c'est des maisons, c'est des organismes communautaires qui servent de maisons de transition. C'est juste au Québec.
Ce que je comprends, c'est ça. Ouais. Qui ont des contrats avec le service correctionnel du Canada, puis les délinquants sont hébergés dans leur maison, puis il y a un certain suivi là en lien avec le quotidien, là, le travail, l'école s'ils vont, leurs finances. Mais c'est une co-responsabilité. Là, ils travaillent de concert avec l'équipe de gestion de cas en communauté.
Quand je lis dans le rapport là que l'équipe de gestion, donc à la fois ceux qui travaillent pour service correctionnel puis ceux qui travaillent pour la maison de transition, ont sous-estimé la probabilité que Galaise crée des liens affectifs avec une employée de salon de massage, dans ce cas-ci donc la victime, Marilyn Lévesque. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je trouve que c'est un peu bureaucratique comme formulation. Sous-estimer la probabilité que le délinquant crée des liens affectifs.
Qui développe un aspect affectionnel avec Marilyn Lévesque. Puis c'est ce qui s'est produit, là. Que ça ne soit pas strictement une relation.
De client. Une réaction de client, ouais.
Une personne qui offre des services du sexe, là. Donc, qui a développé plus que la relation client. Donc, puis que là, ça a eu un impact sur justement son probablement sur le plan psychologique, cognitif.
Sa capacité à convaincre la victime de le rencontrer dans une chambre d'hôtel. Là, parce qu'ils sont, d'après ce qu'on comprend, ils se sont vus au moins trois fois dans le salon de massage, mais on sait que le crime a été commis dans une chambre d'hôtel. Donc, on peut penser, si on comprend bien, là, parce qu'honnêtement, c'est pas d'une grande transparence, je suis d'accord avec vous, ou en tout cas d'une grande clarté. Est-ce que ces liens affectifs-là ont joué dans la décision de Marilyn de le rencontrer dans une chambre d'hôtel? Je sais pas. Je suis d'accord avec vous que... Comment je dirais bien ça? Je sens pas qu'on est allé trop profondément, mettons, dans l'histoire, qu'on a voulu nous en dire trop. Je trouve qu'on reste un peu en surface de ce qui s'est produit.
En surface, puis moi, ce que je considère aussi là-dedans, tu sais, ça aurait été une opportunité avec un crime terrible, malheureusement, mais de regarder aussi les meilleures pratiques qui se font sur la scène internationale, là. En Angleterre, là, la commission des libérations conditionnelles, là-bas, c'est trois commissaires dans des cas aussi lourds que Galaise. Puis aussi, sont épaulés avec des spécialistes, des criminologues, des professionnels en santé mentale. Donc, il y aurait peut-être eu lieu de regarder ça aussi, là, avec la commission, là, peut-être d'améliorer. Dans le passé, il y avait trois commissaires qui siégeaient, là, on a changé ça, mais tu sais, il y avait une opportunité de regarder les meilleures pratiques, d'adapter peut-être les pratiques, les modifier.
Vous trouvez que la commission des libérations conditionnelles s'en sort à trop bon compte, c'est ça l'affaire?
Ben, puis on regarde, il n'y a pas un mot sur le processus de nomination, tu sais. C'est pas moi qui l'invente, ça. Joël Laibond, le député libéral de Louis Hébert, secrétaire parlementaire au ministre de la Justice, a bien beau me dire que j'ai tort, mais la réalité est que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a tout l'air les commissaires d'expérience. C'est sûr que si on met du nouveau monde, ils ont bien beau être formés, il y a quand même un aspect qui est important de formation en cours.
D'accord. Je comprends. Et ça, c'est votre bataille, effectivement. Dave Blackburn, donc professeur à l'Université du Québec en Outaouais, ancien commissaire à la Commission des libérations conditionnelles. Merci.
Merci, M. Drinville.
On va voir là, les suites qu'aura ce rapport-là. Là. Je vais garder un œil là-dessus parce que c'est épouvantable ce qui est arrivé. Puis je ne sais pas si vous vous sentez comme moi, j'ai l'impression de ne pas être bien plus avancé. T'sais, un an plus tard, ils font une enquête, puis j'ai l'impression de radoter ce qu'on disait déjà il y a un an sur ce qui n'avait pas fonctionné. À surveiller, on fera notre suivi, faites-vous-en pas. On va aller aux États-Unis après la pause pour parler un petit peu de la situation de la pandémie là-bas. Un médecin de Boston va nous faire un peu le portrait, puis c'est pas Jojo.